Le conflit qui fait rage au Yémen actuellement a commencé en mars 2015 et c'est totalement une crise oubliée. Plus de 80% de la population totale du Yémen, on estime aujourd'hui, est en besoin d'assistance humanitaire d'urgence. Ce sont des chiffres effarants. Il y a très peu de ressources financières mobilisées, très peu de mobilisation des gouvernements en Occident pour essayer de trouver une solution à la crise autre que militaire. Et très peu de mobilisation diplomatique et humanitaire.
Alors, pour rester sur le point de vue militaire, un général saoudien a annoncé la possibilité d'un arrêt des bombardements de la coalition menée par l'Arabie saoudite. Cela vous donne espoir ?
Oui, tout à fait. C'est toujours un espoir d'entendre des déclarations comme celle-ci. Il y a eu cependant plusieurs tentatives dans le passé de négociations de paix pour un arrêt des hostilités, que ce soit un arrêt des bombardements de la coalition saoudienne ou un arrêt des combats sur le terrain, bien sûr, donc impliquant toutes les parties au conflit. Et jusqu'à présent, toute tentative de négociation de paix a été un échec assez cuisant. Donc il faudra vraiment attendre de voir.
Alors, vous parlez d'une crise alimentaire, notamment. Vous êtes présent sur le terrain. Quelle est la situation à ce niveau-là que vous constatez ?
En termes de crise alimentaire, je pense qu'à l'heure actuelle, on peut parler d'une des crises alimentaires les plus sévères au monde, si ce n'est la plus sévère au monde. Il y a plusieurs situations au Yémen aujourd'hui. Dans certaines localisations, il n'y a, pour parler clairement, il n'y a pas de nourriture disponible. C'est-à-dire que les gens ne peuvent même pas essayer d'acheter de la nourriture, même s'ils en avaient les ressources. Et puis, dans d'autres localisations, là où il y a de la nourriture disponible, la plupart des gens ne peuvent plus se permettre de l'acheter en termes économiques. Ils n'ont plus les ressources financières pour pouvoir aux besoins alimentaires de leur famille. Et cela, c'est en majeure partie parce que les coûts des commodités alimentaires ont augmenté de façon draconienne depuis l'année 2015. Alors, il est vrai que les prix se sont un petit peu stabilisés récemment, ces derniers mois, à un niveau moindre que ceux au début du conflit. Mais cela dit, les capacités financières des foyers yéménites a été érodée depuis un an. Les gens ne peuvent tout simplement plus se permettre d'acheter de la nourriture à l'heure actuelle. Une des raisons pour cela, c'est qu'il y a eu et qu'il y a un blocus sur maritime, terrestre et aérien sur le Yémen à l'heure actuelle, exercé par la coalition. Cela veut dire qu'il y a très peu de commodités nécessaires qui rentrent à l'intérieur du pays. C'est le cas en particulier des carburants. Pour vous donner un exemple, au mois de février, on estime que les importations de carburant à l'intérieur du Yémen n'ont permis de couvrir que 15% des besoins à l'intérieur du pays. Et sans carburant, ça veut dire que les hôpitaux n'ont pas d'électricité pour fonctionner, ça veut dire que les systèmes de pompage d'eau ne peuvent pas fonctionner, donc l'accès à l'eau potable est réduit. Et ça veut dire aussi que le coût du transport des commodités, des denrées alimentaires d'un endroit à l'autre à l'intérieur du pays augmente considérablement, et donc le coût de la nourriture augmente considérablement.
Une crise alimentaire donc extrêmement grave. Quel est l'état des infrastructures sanitaires dans le pays, ainsi qu'au niveau de l'éducation ?
En termes d'éducation, les derniers chiffres auxquels j'ai eu accès montrent que 1 800 000 enfants n'ont pas accès à l'éducation, n'ont pas eu accès à l'éducation depuis le début du conflit, donc depuis la fin du mois de mars 2015. C'est un chiffre effarant. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une génération entière qui est sacrifiée, et donc que les conséquences de long terme de ce conflit vont se faire sentir pour des années à venir. En termes des infrastructures de santé, des infrastructures sanitaires, les bombardements et les conflits sur le terrain ont causé énormément de destruction. Des hôpitaux ont été bombardés, des réseaux d'eau ont été bombardés, des marchés ont été bombardés, et les hôpitaux, les centres de santé n'ont plus les ressources à l'heure actuelle, que ce soit pour certaines en termes de ressources humaines, mais pour l'ensemble d'entre elles en termes d'électricité, d'eau, de médicaments, d'opérer de façon efficace ou d'opérer tout court d'ailleurs.
Alors vous pointez du doigt le travail difficile des humanitaires sur place. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien ?
C'est un travail extrêmement laborieux, principalement pour nous assurer d'un accès aux bénéficiaires et que les bénéficiaires auxquels nous souhaitons apporter assistance ont un accès sécurisé à cette assistance. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Et lorsque c'est le cas, ça demande des efforts considérables quotidiennement. Les principales difficultés pour les acteurs humanitaires à l'heure actuelle sont de devoir négocier avec un apparatus administratif et bureaucratique qui est gigantesque, avec de multiples autorités qui qui sont en compétition pour le pouvoir. C'est aussi de devoir slalomer entre les bombardements, les checkpoints, les conflits sur le terrain. Et puis un problème principal, c'est qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de sanctuarisation complète des sites de distribution, des infrastructures avec lesquelles les ONG et les autres acteurs humanitaires travaillent. Si ces contraintes-là sont les contraintes auxquelles nous devons faire face, vous imaginez bien que c'est aussi les contraintes auxquelles les populations doivent faire face pour accéder à l'assistance humanitaire que nous leur apportons. Donc à l'heure actuelle, garantir l'accès est le problème principal.
C'est ce que vous demandez aujourd'hui à la communauté internationale ?
Oui, tout à fait. Une des demandes que nous faisons aujourd'hui à la communauté internationale, c'est évidemment, en sus d'un arrêt des hostilités, du respect du droit humanitaire international, c'est de permettre aux acteurs humanitaires d'avoir un accès complet et une sanctuarisation complète de leur travail et des infrastructures dans lesquelles ils travaillent.
Comment vous expliquez que ce conflit soit oublié aujourd'hui ?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, dans les opinions publiques en Occident, il doit sans doute y avoir une certaine fatigue, qui est d'ailleurs probablement accentuée par le fait qu'il est très très compliqué d'entendre, de comprendre les dynamiques du conflit au Yémen. Pour être aussi tout à fait honnête, il y a eu très très peu, depuis le début du conflit, très très peu de réfugiés yéménites qui ont fui le Yémen pour chercher refuge dans d'autres pays, par exemple en Europe. Donc c'est aussi un conflit qui est moins visible, qui a moins de conséquences directes pour les pays occidentaux. Alors que à l'intérieur du Yémen, il y a 2,5 millions de personnes déplacées qui ont fui leur maison. Et puis un troisième facteur, je pense, est qu'il y a au niveau politique un ensemble d'intérêts diplomatiques, économiques ou autres qui font que les pays occidentaux, les pays européens tendent à ne pas trop s'impliquer dans une résolution du conflit, autre que par un soutien indirect comme militaire à la coalition.